Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus marche.
Jésus libère.
Jésus rétablit.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Le livre de Josué est surtout sur une personne. Une personne, c'est Rahab. Parce que, en fait, ce personnage de la Bible est assez particulier. Et en lisant, je vais lire pas mal de textes bibliques et vous faire part de... Parce que vous aussi, au travers de ce récit, je suis sûr que vous allez découvrir beaucoup de choses. Et c'est mon vœu et mon souhait. Et c'est pourquoi je vais prier tout de suite, Père Céleste. Si dans ta parole, tu nous parles de Rahab, c'est parce que tu veux nous dire quelque chose de particulier. Et s'il est tant de fois question de Rahab, et tout de sa foi, c'est parce que tu veux nous parler au travers de cela. Eh bien, Père, touche nos cœurs, touche nos âmes, touche notre esprit, et que nous soyons mis au bénéfice de ce que tu veux nous enseigner au sujet de Rahab. Parle-nous, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la situation est claire, c'est que Moïse est donc décédé, sans qu'on sache où il a été enterré, puisque c'est Dieu qui l'a enterré. Et voilà que Josué, donc, conduit le peuple d'Israël avec les 12 tribus dans le pays de Canaan. Alors ça ne se fait pas sans difficulté. Alors on va lire simplement comment les choses se passent. Il y a d'abord une mission de reconnaissance. Et là il y a plus 12 espions, mais il n'y en a que 2. Et nous allons lire le chapitre 2 du livre de Josué. De Shittim, Josué fils de Noun envoya secrètement 2 hommes chargé d'une mission de reconnaissance. Il ordonna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab: livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais elle les cacha, puis elle répondit: effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse de sa maison, et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Voilà, alors la situation, c'est ces deux envoyés, ces deux espions arrivent donc chez Rahab, c'est une prostituée, et elle travaille pour le service du renseignement du roi. Et là, très curieusement, il ne fait pas son boulot. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? Et alors, elle les cache. Verset 8. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit: je sais que l'Éternel vous a donné le pays, la terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Les deux hommes lui répondirent, « Qui répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse, et nous te traiterons avec bonté. » Alors la maison demeure dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les deux hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit, « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent la colline et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la passée à leur poursuite soit de retrouver battue. Toute la région le long de la route sans les trouver. Alors, les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent retrouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. « Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. » C'est le premier arrêt que nous faisons en quelque sorte. On en fera d'autres. Le premier arrêt, c'est que cette femme manifeste une attitude différente de tous les autres. Elle sait que la terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Ça, c'est la situation. Tout le peuple de Canaan, tous les peuples de Canaan sont pris de panique. Ils ont peur. Ils sont terrorisés à cause de ces Israélites qui viennent et qui vont prendre possession du pays. Et ils ont déjà réduit à rien les deux rois des Amoréens. Donc, et ce que fait cette femme, c'est qu'elle a une attitude inverse. Elle ne cède pas à la panique, elle n'est pas terrorisée, elle n'est pas remplie de crainte, mais, et c'est là toute la différence, elle manifeste sa foi. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Ensuite, elle dit, « En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Elle confesse. Et les autres sont saisis de panique. Ils ont peur. Mais elle, elle a la foi. Elle a foi que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tout qui est au-dessus de tous les dieux. Elle a mis sa foi dans ce Dieu-là. Et c'est à cause de cette foi dans ce Dieu-là, eh bien, qu'elle cache Fion, alors qu'elle risque sa vie, risque sa peau. Et elle est celle aussi qui fait une sorte d'engagement. Si je vous cache, et donnez-moi un gage certain, vous laisserez la vie à toute ma famille. Alors, voyez, ça c'est la première chose, c'est... Il y a un choix, et nous sommes souvent devant ce choix. Soit la terreur, la peur, soit la foi. Et Rahab choisit la foi. Et faites bien attention, parce que nous pourrions peut-être nous trouver dans une situation où il y a la terreur, la panique qui peut s'emparer de tout un pays. Je pense par exemple avec les terroristes. En quoi et en qui mettras-tu ta confiance? La foi contre la terreur. La foi va la sauver. Alors, ça c'est la première chose. Et on va donc entrer un peu plus loin dans pour comprendre et connaître un peu mieux Rahab. Mais voyez un petit peu l'attitude du peuple de Canaan, ils sont terrorisés et ils ont peur. Et elle a entendu que Dieu avait fait pour les Israélites en Égypte, la mer Rouge, et elle croit. Vous voyez, il y a deux choses. Vous pouvez être terrorisé par ce que vous entendez de Dieu, ou vous pouvez avoir la foi. Dieu fait des choses étonnantes et on peut être étonné et terrorisé, paniqué par ce qu'il fait, ou tout simplement cela est l'occasion de manifester votre foi. Il y a des gens qui ont peur de Dieu, sont paniqués par Dieu, du jugement de Dieu, vous voyez. Vous pouvez être paniqué par le jugement de Dieu, le jugement à venir, mais vous pouvez aussi faire comme votre foi, et à cause de sa foi en Dieu, échapper au jugement qui... Voilà. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, la lecture. Et on va arriver au chapitre 6. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte. La situation. Elle est bien décrite dans le chapitre 6, verset 1er. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. Et la peur peut nous enfermer, emprisonner. Nos peurs sont déjà emprisonnées. Et si vous êtes dans cette situation, ne restez pas dans cette situation. Ne permettez pas à la peur, eh bien, de vous emprisonner. Vous voyez, la peur. Ils ont peur. Qui ont peur, eh bien, du jugement, des condamnations. Et ils sont enfermés. Et les jugements dans l'Église, ça existe aussi. Hein. Et on craint les jugements, on craint ce que les autres vont dire. On est terrorisé par ce qu'ils peuvent dire. Eh bien, tu es enfermé, tu es prisonnier, tu es emprisonné. Bah, tu n'as qu'une seule sortie, c'est la foi. La foi, c'est la seule façon de sortir de cette prison. Si tu es emprisonné par les pensées des uns et des autres autour de toi, parce qu'ils croient ou ils s'imaginent ou ils pensent ceci ou cela de toi, bah, tu n'as qu'une solution, c'est la foi. Sinon, tu es enfermé. Qui est mort. Alors personne n'entrait ne sortait. Alors l'Éternel dit alors à Josué, verset 2, regarde, Jéricho, son roi et tous ses guerriers, pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour. 7 prêtres, portant chacun et d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le septième jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du cor. quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun roi devant soi. Alors, les choses étaient simples. Mais il fallait encore les vivre. Imaginez les gens qui étaient sur les murailles de Jéricho. Ils voient arriver cette foule-là. C'est quoi ? C'est quoi qui arrive là ? Ils s'avancent pas trop près pour ne pas être touchés par les flèches, mais ils veulent prendre la ville. Mais ils sont fous. Où sont leurs béliers ? Où sont leurs catapultes ? Où sont leurs instruments de guerre ? Où sont les échelles ? Où est tout ce matériel pour faire un siège, pour faire des remblais ? Où ? Rien. Ils les voient simplement tourner autour de la ville. Ça doit être impressionnant, ils disent. Qu'est-ce qu'ils se préparent ? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais quelle est leur stratégie ? Ils vont tourner autour de la ville, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ils ont peur. Et puis, ils font un tour, et puis ils s'en vont. Et alors, ça a dû être non seulement le soulagement sur les remparts, mais les rigolades, les moqueries. Vous avez peur ! Bande de lâches ! Dégonflés ! Et ils ont dû les entendre se moquer d'eux. Hein. Mais Dieu avait dit, vous faites le tour de la ville sans crier. Josué avait donné cet ordre au peuple, verset 10. Pas de cri, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. D'ailleurs, ils ont dû rester pendant, entendre tous ces colibés, entendre ces moqueries, sans rien dire. C'est terrible, c'est l'humiliation. Mais moi, ça me fait penser à Jésus sur la croix. Les gens tournaient autour. Et ils se moquaient. Et ils disaient, descends, toi qui as fait des miracles, descends du haut de la croix. Et ce qu'on sait que Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et ça, c'est ce qui prépare ce qui se produira pour Jésus. Vous savez, quelqu'un a dit, il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est produit le jour où toute cette armée, tout ce peuple a tourné autour de la ville sans dire un mot. Parce qu'il fallait vraiment se pincer la langue entre les dents pour ne rien dire. Quand vous entendez les moqueries, au début, ça a dû être assez impressionnant. Ils n'ont rien dit, ce qui était sur les murailles. Mais après, ils se sont lâchés. Le deuxième jour, pareil. Le troisième, pareil. Je leur dis, maintenant, ils ont peur. Et ce qui avait l'air de se produire, et on a du mal à imaginer cela, c'est tous les membres de la famille de Rahab. Ils étaient là sur la muraille, ils voyaient. Ils n'attaquent pas, ils ont peur. Et nous, si on découvre que moi je les ai reçus, les espions, et que je les ai laissés partir, mais c'est la mort de la famille. Vous voyez, et les gens de la famille disaient, mais t'as fait confiance à des gens qui ont peur et qui n'osent pas attaquer. Vous voyez, tout ce qui a pu se passer. Mais le septième jour, les choses ont changé. Le septième jour, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seule la prostituée sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. C'est la seule exception. Et qui va prendre la protection de la maison de Rahab? Ben, ce sont les deux espions. C'est eux. Verset 22. Josué, qu'il avait pour explorer le pays, allez à la prostituée et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. Les deux hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté. Et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille. Et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Ce sera là qu'on va s'arrêter pour la lecture du livre de Josué. Et ce sont les deux hommes qui sont allés chez elle. Eh bien, ce sont les deux hommes qui doivent aussi tout de suite assurer sa protection. Et la protection de toute sa famille. Il y a un petit point que je vous invite à lire avec attention. Ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une part, une séparation. Rahab, ok, d'accord, tu es sauvé parce que tu as caché les espions. Tu as la vie sauve avec ta famille. Mais la fin dit, elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est le petit verset. Le petit verset, comme toujours la parole de Dieu, eh bien, nous ouvre toujours une porte par un tout petit verset, par un tout petit mot. Elle et sa famille en dehors du camp d'Israël. Elle est sauvée, c'est vrai. Avec sa famille. Et peut-être son père a dit, oh, c'est pas grave. La maison que nous avions à Jéricho, bon, elle est en ruine, et puis on n'a plus le droit d'y retourner, ni de rebâtir quoi que ce soit dans cette cité, puisqu'elle est maudite. Mais on va te construire une petite maison, et tu continueras ton petit commerce. Tu continueras ta profession. Pas de problème. Mais c'est oublier que Rahab a la foi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Elle est sauvée, elle a la vie sauve. Sa parenté a la vie sauve aussi. Mais il est dit que elle, toute seule, elle, a voulu plus que cela. Elle n'a pas seulement voulu être sauvée, mais elle a voulu faire partie de la famille de Dieu. C'est ça la différence. Et c'est ça le message central de Rahab. Elle n'a pas seulement été sauvée de la destruction de Jéricho, mais elle a voulu faire partie du peuple de Dieu. Il y en a une autre qui l'a suivie sur cette voie. C'est Ruth, la Moabite. Elle aussi n'avait aucune part au peuple de Dieu, parce qu'elle était Moabite, était étrangère. Elle n'avait aucune part au peuple de Dieu, puisque c'était une étrangère. De plus et de surcroît, prostituée. elle n'avait aucune place, aucune part possible dans le peuple de Dieu. Mais nous nous souvenons de ce que Ruth dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est la même chose qui se passe pour Rahab. C'est très curieux parce que dans la généalogie, et on va y venir, la généalogie de Jésus, c'est assez extraordinaire dans cette généalogie. Chapitre 1er, verset 5, voici ce que nous lisons. De Rahab, Salma, ou Salmon, ça dépend des traductions, eut pour épouse. De Ruth, Boaz, eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant... Curieux. C'est la lignée de la grâce. La généalogie de la grâce. C'est-à-dire que ces deux femmes, Ruth, Rahab, qui n'avaient vraiment aucun droit pour faire partie du peuple de Dieu, elles en font partie quand même. Et qui est celui, ce Salma ou ce Salmon, qui a épousé Rahab? Il y aurait peut-être tout un film à faire et toute une belle histoire d'amour. C'est l'un des deux hommes, l'un des espions. C'est lui qui a épousé Rahab. Et en l'épousant, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que cela doit nous parler à nous tous. C'est... Rahab était une femme qui avait un passé. Mais Dieu lui a donné un avenir. Et ça peut être notre cas à tous. Elle avait un passé, la prostitution. Et normalement, en raison de la prostitution, elle n'avait absolument aucune part, en plus qu'elle était païenne, de faire partie du peuple de Dieu, de faire partie du peuple élu. Ce n'était pas possible. D'ailleurs, s'il y a quelque chose que Moïse dit et répète de la part du Seigneur, c'est « Tu ne donneras pas ta fille à des païens. » Et tu ne, et ton fils n'épousera pas une païenne. C'était une loi. Alors, vous vous compte un petit peu, et c'est ça le problème. Et je voudrais que vous en soyez conscient ce soir ou cet après-midi, comme vous voulez. C'est devant ce problème, comment Dieu le résout? Comment peut-on résoudre ce problème? Elle était païenne. Elle exerçait une profession, eh bien, qui n'avait pas du tout, je dirais, sa place en Israël. Ce qui pouvait l'attendre, c'était la lapidation plus simple. Et voilà qu'elle va faire partie du peuple de Dieu et qu'elle va devenir aussi une aïeule, eh bien, de David et être dans ce chaînon, un chaînon de la lignée messianique. Extraordinaire. C'est extraordinaire quand on pense à cela. On se demande pourquoi de telles choses sont-elles dans la Bible. Ben c'est pour augmenter notre foi. Parce que c'est une question de foi. Et c'est une histoire de foi. Et cette histoire de Rahab, pourquoi est-ce qu'elle a vraiment sa place dans la généalogie de Jésus? Pourquoi est-ce qu'elle a vraiment sa place? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on nous parle de Rahab et on nous parle de sa foi. Eh bien, pour nous apprendre quelque chose que nous avons l'habitude d'oublier, c'est que et on l'oublie même en tant que chrétien. C'est qu'on entre dans le peuple de Dieu non pas par la loi, mais par la foi. Et qu'on fait partie du peuple de Dieu par la loi, mais par la foi. Et que le salut, et l'apôtre Paul va y insister, vient non pas par la loi, l'observance de la loi, mais par la foi. Et l'histoire de Rahab est là, de même que celle de Ruth, pour nous dire... On entre dans la lignée du Sauveur, non pas par l'observance de la loi, mais seulement par la foi. Et que la loi souffre toujours d'exception par rapport à la foi. C'est la foi qui est l'exception à la loi. Et voyez, de loin, et en considérant les choses, disons, voilà, Rahab, habitant de Jéricho, qui a été voué par interdit, elle exerce un métier qui est honni dans la Bible, ben, selon la loi, elle n'a vraiment pas part à quoi que ce soit. Et elle pourrait dire en elle-même, bon, après tout, vie pour vie, j'ai sauvé la vie de ces espions, je suis aussi sauvé. Mais elle veut plus. Elle veut vie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est citée en exemple. Et c'est pour ça qu'elle a une place aussi importante dans la lignée messianique. Parce qu'elle n'avait aucune part au peuple de Dieu, mais par la foi... elle y a accès. Et c'est là qu'on se rend que tout nous est donné, mais par la foi. Et ce que nous pouvons espérer, c'est par la foi. C'est pas la loi. Et ça pourrait remettre aussi, en question bien des personnes parmi nous qui ont une loi. J'observerai toute la loi. Aussi rigoureusement que l'apôtre Paul qui dit « Quant à la loi, je suis irréprochable et j'étais irréprochable », mais ça ne me donnait pas du tout l'assurance du salut. Par contre, la foi, oui. Comment est-ce que Rahab a pu intégrer le peuple de Dieu ? Mais par la foi. Et à tous ceux qui sont en dehors, qui sont éloignés, qui n'ont aucune part avec l'œuvre de Dieu, quelle qu'elle soit, de près ou de loin, eh bien, nous avons une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est par la foi en Jésus-Christ, tu peux et entrer dans le peuple de Dieu et entrer dans le corps des saluts, des sauvés. Voyez, c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça que l'histoire de Rahab est formidable, parce que elle n'est pas seulement celle qui s'est contentée de dire bon, je suis sauvé, je tirai mon épingle du jeu, Jéricho est détruite. Mais j'ai sauvé ma peau. Non. Elle voyait beaucoup plus. C'est je veux faire partie du peuple de Dieu. Et toi, qui es là, est-ce que tu te contentes simplement du salut ? Je suis sauvé. J'ai même pris le baptême. Je suis passé par les eaux du baptême. J'ai même été baptisé dans le Saint-Esprit. Je suis sauvé. Ça s'appelle sauver au travers du feu. Dieu nous appelle à plus. C'est être sauvé en entrant dans le plan de Dieu, en entrant dans le dessein de Dieu. Et c'est ce que voulait Rahab. Et c'est la même chose pour Ruth. Elle est entrée dans le dessein de Dieu. Et Dieu s'est servi de ces femmes pour constituer elles, c'est les seules femmes qui sont mentionnées dans la généalogie, et bien pour amener Jésus le Messie. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Il s'est servi de ces femmes, non pas parce qu'elles étaient ceci ou parce que c'était cela, mais à cause de leur foi. Et toi tu dis, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Oui, tu es sauvé, Mais est-ce que tu fais partie du plan de Dieu? Est-ce que tu es entré dans le dessein de Dieu? Est-ce que tu veux faire le plan de Dieu? Est-ce que tu veux entrer dans le dessein de Dieu? C'est ça qui est plus important, voyez. Et cette femme, elle n'a pas dit, je pense ceci, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as pardonné mes péchés, parce que tu m'as libéré de mes péchés. Mais, d'accord, mais est-ce que tu veux maintenant entrer dans le plan de Dieu? Tout à l'heure, Luc disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je ne veux pas être sauvé pour ensuite faire ma volonté, continuer mon ancien métier, non, mais pour faire ta volonté, pour faire partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Rahab est cité en exemple. Et je voudrais que cet après-midi, eh bien, chacun d'entre nous réalise ce que c'est que le plan de Dieu. C'est formidable, c'est extraordinaire. Pas seulement être sauvé, mais dans son salut, on ne sait pas ce qui est devenu la famille, mais sa foi a sauvé aussi sa famille du jugement. Mais elle est la seule de sa famille à être entrée dans le plan de Dieu. À être entrée dans le plan de Dieu. Et pour nous, ça doit nous parler, voyez. Et c'est peut-être là que l'histoire de Rahab nous interpelle au plus haut degré. Et j'aimerais que vous puissiez aussi, les uns et les autres, eh bien, vous poser la question. Est-ce que, moi qui suis sauvé, je suis comme Rahab, là, je suis en dehors du camp d'Israël, je suis sauvé, oui, mais je suis en dehors de l'Église, en dehors de l'Église. Voilà. L'Église est là. Ben, je suis sauvé, mais j'ai une petite vie à côté, là, comme ça, en dehors. Alors que elle dit non, je veux pas être sauvé pour simplement être sauvé, mais je veux faire partie de l'Église. Et là, on comprend la parole de Paul qui dit que Dieu a préparé les œuvres d'avance pour ceux qui hériteront du salut. C'est entrer dans ces œuvres-là. Il y a quelque chose encore que j'aimerais souligner à cet égard, vous voyez. C'est Dieu, hein, a promis de donner le pays de Canaan au peuple d'Israël. Il y a deux espions qui vont un petit peu voir ce qui s'y passe. Ils voient la terreur des habitants. Et bien sûr, le plan de Dieu va se réaliser. Ce que je vous ai promis va se faire. Je vous ai promis le pays, il va se faire. Et au passage, eh bien Dieu voit une femme prostituée. Et il voit sa foi. Et il voit sa foi qui est même plus grande que ceux qui sont les descendants d'Abraham. C'est pour ça que Jésus dit, hein, qui viendront de l'Est, du Nord, du Sud, etc., et ils mangeront à la table du Seigneur des Seigneurs. Et vous, les enfants d'Abraham, peut-être pas. Un certain nombre d'entre vous, pas. Parce que tout simplement, vous n'avez pas eu la foi. Mais il voit cette femme qui a la foi. Pourtant, elle est une Cananéenne, pourtant, elle habite Jéricho. Il voit sa foi. Il va donner le pays d'Israël, de Canaan au peuple d'Israël, et voilà qu'il l'intègre dans son plan. Et c'est ce qui peut se passer aussi pour nous. Dieu fait une œuvre. Et il voit ta foi. Et c'est pour ça, priez pour que Dieu, eh bien, vous intègre dans son plan. Prions pour que Dieu nous intègre dans son plan. Prions pour que Dieu intègre dans son plan Albuisson Ardent, mais aussi toutes les autres églises. C'est une histoire étonnante, mais toutes les histoires avec Dieu sont toujours étonnantes. Et quand on examine attentivement cette personne, Rahab, on dit « Amen Seigneur ». Elle avait vraiment le droit de figurer dans la liste de la descendance ou de la généalogie du Christ. Elle avait vraiment sa place à cause de sa foi. Non pas à cause de ce qu'elle faisait, ni à cause de ce qu'elle était, mais à cause de sa foi. Et je voudrais qu'on retienne simplement, Rahab est une femme qui a un passé très lourd, mais Dieu lui a donné un avenir. Et ça c'est la foi, à cause de sa foi. Quel que soit ton passé, quels que soient tes problèmes, mais ta foi, et par ta foi, Dieu te donne un avenir. Il y a toujours un avenir. Et le dernier point, ne jugeons pas. Vous savez, ne jugeons pas parce que nous jugeons souvent avec la loi. Et nous avons comme maître étalon la loi. Selon la loi et selon ce maître étalon, Rahab n'avait en aucune manière le droit du peuple d'Israël. Et voilà. Il y a un autre maître étalon, c'est la foi. C'est la foi. Et c'est celui-là qui compte aux yeux de Dieu. Et c'est avec le maître étalon de la foi que Dieu l'a fait entrer dans son plan. Pour même devenir une ancêtre chère de Jésus-Christ. Il y a des choses peut-être qui peuvent nous surprendre. Et cherchez pas tellement dans la loi, mais cherchez la foi de la personne. C'est la foi qui est déterminante. C'est la foi. Avant de juger, regarde la foi. La foi de la personne. Il y a des choses que certains ont fait, et je pense à des hommes comme Luther, comme d'autres encore. C'est fou. Selon la loi, c'était fou. Mais selon la foi, c'était bien. Et il lui sera rendu justice par rapport non pas à l'observance de la loi, même ecclésiastique, mais de la foi. Et c'est lui qui a découvert et ce qui a révolutionné sa vie, c'est le juste vivra non pas par la loi, mais par la foi. C'est la foi qui est déterminante. Que Dieu nous bénisse. Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais je m'arrête là. Et plaçons-nous devant le Seigneur. Méditons cette parole.